le passage de Luc chapitre 8, verset 12 jusqu'au verset 15. Luc chapitre 8, verset 12. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui la reçoivent le long du chemin sont ceux qui l'écoutent. Mais le diable vient qui ôte cette parole de leur cœur, de peur qu'en croyant, ils ne soient sauvés. Ceux qui la reçoivent dans des endroits pierreux sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines et ils ne croient que pour un temps. Et quand la tentation survient, ils se retirent. Et ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais qui, s'en allant, la laissent étouffer par les inquiétudes, par les richesses et par les voluptés de cette vie, de sorte qu'ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Mais ceux qui sont tombés dans une bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Puisse Dieu, frères et sœurs, bénir sa parole dans le cadre de notre méditation et tout à travers cette étude, c'est mon désir et la prière que j'adresse à Dieu pour nous en cette heure. Encore une fois, bonjour à tous, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon sabbat. Une fois de plus, j'aimerais méditer avec vous le sujet du jardin du cœur. J'ai donc intitulé cette méditation « Cultiver le jardin du cœur ». Et ce message vient en réalité et découle des contemplations qui ressortent lorsque nous cultivons le jardin de la terre. Parce que nous, en tant qu'adventistes du septième jour, nous avons été appelés, nous avons été exhortés, nous avons reçu pour conseil de nous installer à la campagne et également de produire notre propre nourriture. Ce sont ces fameux conseils sur la vie à la campagne. Mais alors, quand nous nous attelons à cette tâche de la vie à la campagne et du potager, eh bien, quand nous nous plongeons dans ces tâches du potager et du jardinage, en termes plus larges, eh bien, il y a de nombreuses leçons pratiques, même morales et spirituelles, qui ressortent de cette activité-là, de notre activité. Et d'ailleurs, vous trouvez que dans la parole de Dieu, la Bible emploie beaucoup ce langage qui est propre à l'agriculture, à l'arboriculture pour les arbres donc, à la viticulture pour la vigne et le fruit de la vigne. Elle emploie ce langage pour communiquer donc des réalités morales. J'aimerais que nous nous penchions sur certains des exemples de ce langage symbolique que la Bible emploie pour parler de choses qui ne sont pas symboliques, qui sont réelles. Dans Ésaïe chapitre 5, tout d'abord, nous commençons par le passage d'Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 2. Il est écrit, Ésaïe chapitre 5, verset 1, « Je chanterai pour mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. » Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défricha, il en ôta les pierres, il la planta de ceps exquis. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa un pressoir. Or, il espérait qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des grappes sauvages. Alors, j'utilise uniquement ce passage, ce n'est pas pour aller essayer de l'expliquer, mais pour voir le langage que la Bible emploie, qui bien entendu est symbolique, mais qui toutefois est bien lié à tout ce répertoire du jardinage. Ici, c'est de la viticulture. Il plante une vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Et également, le langage s'en va décrire ce qu'il a fait avec la vigne pour la préparer. Il la défricha, il en ôta les pierres, etc. Il construisit un pressoir, etc. Plus encore, nous nous tournons vers le passage du psaume 92. Le psaume 92, versets 12 à 13. Le psaume 92, versets 12. Voyons voir. Non, plutôt versets 13 à 14, excusez-moi. Le psaume 92, versets 13 à 14. Le juste croîtra comme le palmier. Il s'élèvera comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Qu'est-ce que c'est ? Le juste, l'homme juste, est comparé à un palmier, un arbre donc. Et son élévation est comparée, assimilée à celle d'un cèdre. Et sa plantation et son installation, on parle aussi d'installation d'arbres, est comparée à l'installation des justes dans la maison de Dieu. Et leur prospérité, leur croissance est comparée à la floraison du palmier. À la floraison du palmier, donc. On continue dans le psaume 80. Le psaume 80, verset 8. Oui, je crois. Verset 8. On va voir. Non, plutôt verset 9. Excusez-moi, j'ai encore un décalage. Le psaume 80, verset 9 jusqu'au verset 14. Psaume 80, verset 9. Tu enlevas de l'Égypte une vigne. Tu chassas des nations. Tu chassas des nations et tu la plantas. Tu préparas le sol devant elle. Elle poussa ses racines et remplit la terre. Les montagnes se couvraient de son ombre et les cèdres de Dieu de ses sarments. Elle étendait ses pampres jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures en sorte que tous les passants la pillent, que le sanglier des forêts la dévaste et que les bêtes des champs la broutent? Dieu des armées revient, regarde des cieux et voit et visite cette vigne. Si vous regardez plus en détail, vous voyez que cette vigne dont il est question, c'est Israël, le peuple d'Israël. Il est comparé à une vigne dans la parole de Dieu. Plus encore, vous voyez dans le psaume, le premier psaume ici, hein, nous observons, ne serait-ce que à titre d'exemple, les différentes illustrations par lesquelles la Bible utilise le monde naturel de la végétation, des arbres, de la vigne, pour représenter des réalités supérieures, spirituelles. Le premier psaume, verset 1 jusqu'au verset 3, nous lisons « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes qui rend son fruit dans sa maison et dont le feuillage ne se flétrit point et dans tout ce qu'il fait, il réussira. » Qu'est-ce que c'est ? L'homme qui marche selon le conseil de Dieu, qui prend son plaisir dans la loi de Dieu, qui médite la loi de Dieu jour et nuit, et comparé à un arbre planté près des eaux courantes. La Bible nous dit, il sera tel un arbre planté près des eaux courantes, un arbre qui donc rend son fruit dans sa saison, qui produit du fruit, et dont le feuillage ne flétrit point. Et dans tout ce qu'il fait, il réussira. Et nous continuons donc à travers et par le passage de Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 18. Luc chapitre 13, verset 18. Il est écrit, verset 18 à 19. Alors il dit, à quoi est semblable le royaume de Dieu? Et à quoi le comparerais-je? Disait donc Jésus. Il pose la question. Verset 19. Il est semblable à une graine de moutarde qu'un homme prend et met dans son jardin. Et elle croît et devient un grand arbre, de sorte que les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Et vous voyez le parallèle avec cela dans, je crois que c'est Matthieu chapitre 13, verset 18. Voyons voir très brièvement. Matthieu chapitre 13, verset 18. Matthieu chapitre 13, verset 18. Verset 18 à 23. Où il y a donc la parabole du semeur. La parole de Dieu nous donne cette parabole du semeur dont j'ai utilisé un extrait dans notre lecture biblique. Hein, dans Matthieu chapitre 13, verset 18, il est écrit « Vous donc entendez la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et qu'il ne la comprend point, le malin vient. » Donc il donne toute l'explication et cela continue, etc. En fait, elle commence la parabole ici dans Matthieu chapitre 13, elle commence au verset 4 et elle continue jusqu'au verset 8. Donc ça, c'est le cœur de l'illustration ensuite qui est expliquée au verset 18 jusqu'au verset 23, etc. Et l'explication continue au verset 36 et 43. Donc cela montre, qu'est-ce que c'était? Dans Luc chapitre 13, il compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde. Quoi? Qu'un homme prend et met dans son jardin. Donc Jésus a utilisé cette illustration d'un homme qui jardine à toute la science et tout le concept et tout le plan du salut tel que la Bible nous le présente. Et tout la question du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à une graine de moutarde qu'un homme prend et met dans son jardin, et elle croît et devient un grand arbre. Donc il est question de préparation, de semaille, d'un semis, et d'une croissance jusqu'à ce que cela devienne un grand arbre. Quelque chose de monumental. Donc, frères et sœurs, on voit à travers que tous ces exemples illustrent l'abondance de symboles qu'utilise la parole de Dieu dans ce thème-là bien particulier. Et par rapport à ce thème du jardinage, de l'agriculture, des arbres, de la vigne, du jardin en général. Mais vous me direz, quel est le lien avec notre cœur? Parce qu'on a vu la vigne qui représente d'ailleurs le peuple d'Israël. Nous avons un petit exemple avec Matthieu chapitre 13 où il y a le semis, les personnes qui représentent la parole qui vient. Mais on va avoir l'opportunité et l'occasion d'explorer cela davantage de détails. Avant quoi, j'aimerais que nous contemplions la question du lien entre le jardinage et les illustrations de jardinage et d'agriculture, d'arboriculture et de viticulture avec notre cœur. Pour cela, vous vous tournez vers le passage des Proverbes, dans Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4, verset 23. Où nous lisons le suivant. Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Qu'est-ce que c'est? Garde ton cœur plus que toute autre chose que l'on garde, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Et pour n'importe quelle personne qui a déjà fait du jardinage, vous savez que vous ne pouvez pas juste lancer le jardin, il vous faut entretenir le jardin. Il vous faut, en d'autres termes, garder le jardin, parce que c'est si vous le gardez, c'est de ce jardin que vous tirerez, pour ainsi dire, de la vie, du fruit qui soutiendra et supportera votre vie, qui vous nourrira. Hein, du jardin vient la source de la vie, pour ainsi dire. C'est extrapolé, mais c'est pour vraiment pouvoir saisir le sens des termes. Et donc, nous voyons que notre cœur nous devrions garder notre cœur de la même manière qu'on garde un jardin. Le cœur, comme un jardin, doit être gardé. Il doit être donc, qu'est-ce que cela veut dire, gardé? Il doit être travaillé, semé, désherbé, entretenu et finalement récolté. C'est pour ça qu'on fait un potager, c'est pour en récolter les fruits. Eh bien, il en est de même de notre cœur, comme nous allons pouvoir le constater en poursuivant notre étude. D'ailleurs, voilà, vous trouvez dans le Cantique des Cantiques le langage symbolique que Jésus emploie vis-à-vis de son épouse, son Église, en liant encore une fois avec notre cœur comme un jardin symbolique. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Il est écrit, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12, « Ma sœur ». Donc tout ce livre du Cantique des Cantiques est hautement symbolique, mais il ne représente que de manière minoritaire, il n'est juste là de manière minoritaire pour parler de l'aspect sensuel entre la femme et l'homme dans le contexte des liens matrimoniaux. Ce n'est pas cela vraiment l'objet principal du livre. L'objet principal du livre, c'est de représenter par ces choses naturelles la chose supérieure, à savoir quelle est la chose supérieure au mariage et au jardin, etc. C'est Christ. Christ et son Église, comme on le sait bien. Et donc ici, vous voyez Christ qui s'adresse à son Église, à son épouse, symboliquement, et il dit ceci, « Ma sœur, mon épouse, tu es un jardin fermé, une source fermée et une fontaine scellée. Tes plantes sont un jardin de grenadiers, avec des fruits délicieux, les troènes avec le nard, le nard et le safran, la canne odorante et le cinnamome, avec toutes sortes d'arbres d'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les plus excellentes aromates, ô fontaine des jardins, ô puits d'eau vive et ruisseau du Liban. » Jusqu'au verset 17. « Lève-toi, Aquilon, et viens, vent du midi, souffle dans mon jardin afin que ses aromates distillent, que mon bien-aimé vienne dans son jardin et qu'il mange de ses fruits délicieux. » Ensuite, verset 1 du chapitre 5. « Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, mon épouse, j'ai cueilli ma myrrhe avec mes plantes aromatiques, j'ai mangé mes rayons de miel et mon miel, j'ai bu mon vin et mon lait. Mes amis, mangez, buvez, faites bonne chère, mes bien-aimés. » Voilà, c'est hautement symbolique et je ne vais pas tenter de tout traduire, tout expliquer, quoique vous voyez d'ores et déjà la question du miel, la parole de Dieu est comparée à du miel. La question du lait, la parole de Dieu est également comparée à du lait. La question du vin, Jésus nous a dit que nous a comparé son sang à un vin que nous sommes appelés à boire, un vin donc non alcoolisé bien entendu, donc du jus de raisin en somme. Et donc tout cela, vous voyez, c'est totalement symbolique d'une réalité supérieure, spirituelle. On voit donc Dieu qui emploie ce langage au sujet du jardin. Il se représente comme venant dans le jardin de son épouse, comme lui, Christ, et elle étant son Église, et il vient sentir l'odeur, rappelez-vous, nous sommes appelés à être une odeur de vie, vivifiante à la vie. Vous voyez, donc tout cela a du sens spirituel, bien au-delà du symbole. Le symbole en soi, c'est uniquement un moyen pour une fin, pour la fin de parler de cette relation que Jésus entretient avec son Église, dont utilise le mot jardin pour la représenter. Pour l'intituler, il lui dit, tu es un jardin fermé. Donc pour caractériser sa nature, il dit, tu es un jardin. Et ensuite il dit, je suis venu dans mon jardin, ma sœur, mon épouse. Et ensuite il dit, j'ai cueilli. Hein, il cueille les fruits. On voit bien donc la comparaison entre le jardin et le lien qui est fait entre la question du jardin et notre cœur. Pour cela, j'aimerais que d'ailleurs, nous puissions maintenant nous concentrer et contempler ensemble tout le processus qui concerne le jardin de Christ, à savoir le jardin de notre cœur, comme vous allez le voir par la suite. Et pour cela, j'aimerais poser cette question, à savoir quelles sont les différentes étapes concernant le jardin que Jésus entretient. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait « Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, mon épouse, j'ai cueilli ma myrrhe avec mes plantes aromatiques, j'ai mangé mes rayons de miel. » Donc il dit « Tu es à moi, tu es mon jardin. » Vous voyez, donc nous sommes représentés, nous, dans notre, comme l'Église tout entière, et individuellement comme nous, ce que nous sommes personnellement, à travers qui, notre cœur, notre esprit, nous sommes représentés comme un jardin qui est le jardin de Dieu. Vous voyez, dans lequel il cherche à faire ce que nous cherchons à faire dans nos jardins, nos potagers. Vous voyez, donc les comparaisons sont établies afin que nous puissions ressortir des leçons pratiques lorsque nous nous attelons à cette tâche simple du jardinage et du potager, de l'arboriculture, de l'agriculture, de la viticulture, tout ce que vous voulez. Quelle est donc la première étape dans ce processus concernant le jardin de Jésus-Christ, son jardin? On le lit ici dans Proverbes chapitre 13. Donc on va explorer ici ensemble toute cette question du jardin du cœur et du processus qui implique et au sujet de ce jardin, du processus de tout ce que Christ fait dans son jardin. Premièrement, Proverbes chapitre 13, verset 23, nous lisons. Il y a beaucoup à manger dans le champ défriché par le pauvre, mais il y a des hommes qui périssent faute de jugement. Quelle est donc la première étape pour commencer le potager? Il s'agit de défricher. Et ici, c'est intéressant, j'ai fait une recherche. Je vais pouvoir l'expliquer à travers la lecture du prochain passage qui se trouve dans Osée chapitre 10. Osée, donc c'est après Daniel. Daniel, ensuite directement après Osée chapitre 10, verset 12, où il est écrit le suivant. Et vous remarquerez que le langage ressort. Osée chapitre 10, verset 12, « Semez pour la justice, moissonnez par la miséricorde, défrichez-vous des terres nouvelles. Car il est temps de rechercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et fasse pleuvoir la justice sur vous. » Donc oui, il est question de semaille, mais avant les semailles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que faut-il faire? Il faut défricher. Et c'est intéressant, vous noterez ce qui est écrit dans la Bible Martin, dans ce verset 12, pour ce qui nous est marqué dans la Bible Sterval, défrichez-vous des terres nouvelles, dans la Bible Martin, il est écrit rompez les mottes de terre. Et donc, cela nous permet d'établir ce lien entre le défrichage et le labourage. Donc, la Bible semble présenter les choses comme unies, et donc, il n'y a pas vraiment de distinction. D'ailleurs, selon la Bible, c'est la même chose, soit défriché, soit labouré. Romper les mottes de terre, c'est vraiment l'essence du labour. Vous labourez, vous rompez la terre, vous la retournez d'ailleurs selon l'outil. C'est de cela dont il s'agit. Telle est la première étape du processus. Je vais pas tout expliquer tout de suite parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais on va juste se concentrer sur les étapes symboliques et ensuite nous allons nous concentrer sur leur équivalent. Parce que on voit ici qu'il est question de nous, parce qu'il est marqué à la deuxième partie du verset 12, car il est temps de rechercher l'Éternel. Et en lien avec notre appel à chercher l'Éternel, on nous dit de nous défricher des terres nouvelles, ou comme c'est marqué dans Martin, de rompre les mottes de terre. Et qu'est-ce que ça vous rappelle? Jésus disait, si nous ne tombons pas et nous ne nous brisons pas sur le rocher qui est Christ, le rocher viendra sur nous et nous réduira en poussière. Donc nous devons venir à Christ et être brisés sur Christ. Vous rappellerez les paroles du psaume 51. J'y viens très brièvement ici, ça vaut le coup. C'est important parce que c'est la première étape de ce processus du jardin de Jésus-Christ, tout ce qu'il fait avec son jardin, qui est un symbole pour son Église et pour nous individuellement, le jardin de notre cœur. Et on lit ici dans le psaume 51, « Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas le cœur contrit et brisé. » Qu'est-ce que c'est donc? Lorsque nous venons à l'Éternel, lorsque nous cherchons l'Éternel, comment est-ce que nous le cherchons ainsi? En nous brisant sur le rocher Jésus-Christ, en nous repentant, en confessant et en repentant de nos péchés. Donc le défrichage, le labourage peut être comparé à la repentance. Pour élargir cela, nous tournons vers le passage d'Ézéchiel chapitre 36. Nous continuons cette exploration de tous les symboles qui nous permettent d'établir la liste des étapes contenues dans ce processus de ce que Jésus fait dans son jardin. Ézéchiel chapitre 36 verset 9, nous lisons « Car voici, je viens à vous, je me tournerai vers vous, vous serez cultivés et ensemencés. » Donc qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que nous préparons le terrain pour l'ensemencement, pour les semailles, autrement dit, en étant cultivés, en cultivant la terre, ce qui était expliqué dans Osée chapitre 10 verset 12 par le mot défrichez-vous des terres nouvelles, c'est-à-dire faire sortir la terre de la prairie, la casser la terre, la préparer pour le semis. Donc comment est-ce que nous nous préparons pour être ensemencés? En nous brisant sur le rocher Jésus-Christ, en brisant notre orgueil, en laissant notre orgueil être brisé, notre suffisance, en nous humiliant. Vous voyez, quand nous sommes orgueilleux, nous sommes durs. Quand nous brisons sur le rocher Jésus-Christ, nous nous humilions. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève. Mais avant qu'il nous élève, il y a plusieurs étapes que nous voulons suivre ensemble. Donc nous avons vu la première étape qui est défini comme le défrichage ou le labourage ou la culture du sol. Deuxième étape, on vient de la voir ici, après être cultivé, la terre doit être ensemencée, on vient de le lire, vous serez cultivés et ensemencés. Ça c'est quand l'Éternel se tourne vers nous et quand nous nous tournons vers l'Éternel. On le voit dans Ésaïe chapitre 28 verset 24. Ésaïe 28, versets 24 à 26, où il est écrit le suivant. Je lis Ésaïe 28. Le laboureur, verset 24, le laboureur qui veut semer, laboure-t-il toujours? Est-il toujours à ouvrir et à hercer son terrain? Quand il en a aplani la surface, n'y répand-il pas la nette? N'y sème-t-il pas le cumin? Ne met-il pas le froment par rangée, l'orge à la place marquée, l'épeautre sur les bords? Verset 26. Son Dieu lui enseigne la règle à suivre et l'instruit. Dans ce verset 26, il y a plus que ce qu'on est enclin à voir généralement, à savoir, il y a ici une règle à suivre qui concerne non pas uniquement le monde naturel du potager, de l'agriculture, mais qui concerne également le monde spirituel. La règle à suivre, c'est celle de ce processus. À savoir, le laboureur ne laboure pas toujours, mais, et qu'est-ce que c'est labourer? Vous avez ici une explication des termes. Le labour, ou le défrichage, ou la culture du sol, c'est décrit comme ouvrir et hercer la terre. Il est écrit, est-il toujours à ouvrir et à hercer son terrain? Voilà la première étape que nous avons vue. Donc, C'était ce que nous avions écrit, décrit comme le défrichage, le labourage. Mais il est écrit qu'il ne fait pas toujours cela. Donc il n'est pas question de toujours se repentir. Ce n'est pas uniquement cela la religion de Jésus-Christ. Il est question de semer. Hein? Le laboureur qui veut semer, laboure-t-il toujours? Non, parce qu'il veut semer. Donc il laboure afin de semer. La repentance, elle est destinée à nous faire recevoir la parole de Dieu. L'humiliation, nous nous humilions devant Dieu pour recevoir la parole de Dieu. Vous comprenez? Et ensuite, voilà, il dit, quand il a aplani la surface, il répand la nette, il sème le cumin, il met le froment, par rangée, l'orge à la place marquée, etc. On voit donc le symbole prendre davantage de relief dans notre méditation. On ajoute à cela, bien entendu, le passage de Matthieu chapitre 13 que nous avions sous les yeux juste avant, que j'ai mentionné. Matthieu chapitre 13, verset 3 jusqu'au verset 8. On le connaît bien, c'est donc cette parabole du semeur. Parce que c'est donc la deuxième étape, à savoir celle de l'ensemencement ou des semailles. Matthieu chapitre 13, verset 3. « Et il leur dit plusieurs choses par des similitudes, et il leur parla ainsi de point, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent toute. Une autre partie tomba sur les endroits pierreux, où elle n'avait que peu de terre. Et elle leva aussitôt, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre, mais le soleil étant levé, elle fut brûlée, hein, l'herbe, elle fut brûlée, parce qu'elle n'avait point de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines crurent et l'étouffèrent, et une autre partie tomba dans la bonne terre, et rapporta du fruit, un grain en rapporta 60, rapporta 100, un autre 60 et un autre 30. Donc voilà. On a ici la parabole du semeur qui vient élaborer sur cette deuxième étape qui est celle des semailles. Maintenant que la terre a été travaillée, la terre maintenant elle va être semée. Et Jésus dit que lors de ce deuxième processus, il y a plusieurs catégories de personnes, à savoir plusieurs catégories de cœurs, selon la réception de la semence. On va expliquer tout cela. On va aller dans les détails par la suite, mais pour le moment, nous nous concentrons sur la liste du processus et toutes les différentes étapes comprises dans cet entretien par Jésus de son jardin. Également, nous lisons dans Marc chapitre 4, Marc chapitre 4, verset 14. Alors, voyons voir, qu'est-ce que c'était? Oui, Marc chapitre 4, verset 14 nous permet de comprendre davantage. Je sais pas si on va le faire maintenant ou plus tard. Je vais le faire maintenant parce que par la suite, je n'aurai pas vraiment le temps. Dans Marc chapitre 4, verset 14, vous avez une explication, un début d'explication. Et j'ai pensé que c'était la plus adaptée parce qu'elle est très succincte et elle va droit au but. Nous y lisons le suivant. Verset 14. Le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Hein, ça rejoint cette parabole du semeur. Il sème quoi? Quelle est la semence? La parole. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est semée. Vous voyez? Donc c'est la deuxième étape. Mais aussitôt qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur. Verset 16. De même, ceux qui reçoivent la semence dans des endroits pierreux sont ceux qui, ayant entendu la parole, la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont point de racine en eux-mêmes, et ils ne durent qu'un moment, de sorte que l'affliction ou la persécution survenant pour la parole ou à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés. Verset 18, et ceux qui reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui écoutent la parole, Donc ils écoutent, ils entendent. Mais les soucis de ce monde, la séduction des richesses et les passions pour les autres choses survenant étouffent la parole et elle devient infructueuse. Et dernière catégorie, mais ceux qui ont reçu la semence dans une bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit, un grain 30, un autre 60, un autre 100. On voit donc l'explication de cette semence. Je ne vais pas plus dans les détails maintenant, nous y reviendrons par la suite. Maintenant, troisième étape, quelle est-elle? Après que le travail du sol ait été fait, le semis ait été fait, nous allons nous concentrer sur le numéro 3, à savoir, vous le trouvez dans Hébreux chapitre 12, verset 15. Et il est interchangeable avec le numéro 4 au sujet de l'arrosage, mais je vais me concentrer directement sur le numéro 3. Parce que c'est plus pratique pour moi de le faire dans cet ordre. Dans Hébreux chapitre 12, verset 15, nous lisons le suivant. Après que nous avons semé et que nous ayons reçu les pluies, admettons que nous recevons les pluies. Donc vous n'avez pas besoin d'arroser tout de suite, vous recevez les pluies. Que faut-il faire? Et qu'est-ce qui est déclaré comme faisant partie des choses qui rentrent dans ce processus du jardin de Jésus-Christ? Hébreux chapitre 12, verset 15, nous lisons. Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc il est question ici de racines d'amertume. Donc dans le contexte du semis, vous allez trouver, si tant est qu'il y a, vous avez reçu une pluie, vous allez trouver ensuite la question de certaines racines qui reprennent vie, elles sont dans la terre, vous ne pouvez pas forcément toujours les voir, elles vont reprendre vie, et dans le symbole, comme dans la réalité, il faut faire attention à ces racines, les arracher pour qu'elles ne concurrencent pas les autres. Donc il est question, la troisième étape que j'ai intitulée, le désherbage. Le désherbage, dans l'activité du jardinage, nous savons qu'il nous faut désherber si nous voulons garder notre jardin, entretenir notre jardin, tirer des fruits du jardin. Et ici, c'est comparé aux racines d'amertume qui troublent et qui infectent. J'aimerais maintenant qu'on se tourne vers le numéro 4. Je vais enchaîner, parce que le temps file. Et le numéro 4, je l'ai intitulé « L'arrosage ». L'arrosage. Vous tournez vers le passage d'Ésaïe, chapitre 27. Ésaïe, chapitre 27. Ésaïe, chapitre 27, versets 2 à 3. En ce temps-là, on chantera ainsi sur la vigne excellente. C'est moi, l'Éternel, qui la garde. Je l'arroserai en tout temps. Je la garderai nuit et jour, de peur qu'on ne lui fasse du mal. Que dit-il? C'est moi, l'Éternel, donc au sujet de la vigne, donc son peuple. C'est moi, l'Éternel, qui la garde. Je l'arroserai en tout temps. Je la garderai nuit et jour de peur qu'on ne lui fasse du mal. Donc nous sommes appelés à garder notre cœur et ici il est écrit que l'Éternel garde sa vigne. Et en la gardant, que fait-il? Il dit qu'il l'arrose en tout temps. Je l'arroserai en tout temps, dit-il. Je la garderai nuit et jour. On voit donc par simple déduction et par une réflexion très basique que l'âme, notre âme, a besoin d'un arrosage régulier, à savoir en tout temps, afin de survivre et par la suite de porter du fruit. Alors, quelle est l'eau qui est requise dans cet arrosage? Là, nous avons lu le symbole, mais quelle est la réalité? Vous tournez pour cela vers le passage de Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier est le grand, verset 37 jusqu'au verset 39. Le dernier est le grand jour de la fête. Jésus se trouvait là et s'écriait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Or, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Que disait-il? Quel était ce symbole de l'eau vive dont il parlait? Il disait, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il disait aussi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quelle était cette eau? Premièrement, selon le verset 39, c'était le Saint-Esprit. Il est écrit, or il dit, pas c'est simple, il disait cela, de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Donc l'eau vive dont nous devons être arrosés, qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, plus précisément, qu'est-ce qui vient avec et par le Saint-Esprit? C'est ça qu'on veut comprendre, vous allez voir que c'est complémentaire. En lisant le passage d'Éphésiens chapitre 5, nous voyons de quoi nous avons besoin d'être arrosés. Quelle est l'eau requise pour arroser le jardin du cœur? Qui a reçu la parole de Dieu. Hein. C'est de ça dont il est question. Nous avons besoin du Saint-Esprit, pas pour nous aider dans notre péché, mais pour nourrir la parole qui a été semée en nous afin qu'elle puisse croître, sortir de terre, croître et porter du fruit. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 26, vous lisez le suivant. C'est en lien avec ce symbolisme de Jésus comme le bien-aimé qui rend visite à son épouse qui est un jardin dans le Cantique des Cantiques. Vous avez ce langage ici, vous voyez, faites le lien. Nous faisons les liens ensemble. Il est écrit, « Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Pourquoi? Verset 26, « Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. » Donc je le lis tel que c'est marqué ici dans la Bible Osterwald, je ne sais pas comment c'est dans la Bible Second, mais c'est écrit ici, comme c'était également écrit comme cela dans la Bible King James en anglais. Pourquoi est-ce que Jésus s'est donné et s'est livré pour l'Église, parce qu'il l'aimait, afin de la sanctifier? Comment il opère cette sanctification? En la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Donc, afin que notre âme vive, survive et prospère, nous avons besoin d'être arrosés. Le jardin de notre cœur a besoin d'être arrosé. Nous avons besoin d'être cassé, le cœur brisé. Hein, le cœur a besoin d'être cassé. La terre a besoin d'être retournée, cultivée. Ensuite, nous avons besoin d'être ensemencés, parce que sinon, les seules choses qui vont croître dans notre jardin, ce seront les mauvaises herbes. À moins que vous venez semer quelque chose que vous avez apporté d'autre part, la seule chose qui va croître dans votre jardin, ça sera les mauvaises herbes. Ou des choses spontanées, mais vous ne pouvez pas vraiment vous nourrir de cela. Et donc, de la même manière, dans la réalité spirituelle, Jésus s'est donné pour son Église afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Donc ce qui doit nous abreuver, ce qui doit nous arroser, ce qui doit nous faire vivre, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, l'eau vive, c'était le Saint-Esprit, c'est de cela dont il parlait. Mais ici, le Saint-Esprit est dans la parole. Hein, rappelez-vous, les hommes de Dieu ont parlé étant poussés par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, la parole de Dieu, elle est poussée par le Saint-Esprit. Donc, l'eau par laquelle Dieu cherche et désire nous arroser et par laquelle nous devrions être arrosés et nous arroser nous-mêmes également, c'est l'eau de la parole de Dieu dans laquelle est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Et à cela, nous ajoutons le passage de Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32 qui fait écho à cette compréhension. Deutéronome chapitre 32, je lis, versets 1 et 2 tout simplement. « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine coulera comme la pluie. Ma parole tombera comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des pluies abondantes sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel, célébrerai la grandeur de notre Dieu, l'œuvre du rocher est parfaite, etc. » Qu'est-ce que c'est? Que dit-il? Ma doctrine coulera comme la pluie, ma parole tombera comme la rosée. Si vous voyez le contexte ici, il s'agit bel et bien du Saint-Esprit qui est ici en train de s'exprimer, et il dit, ma doctrine coulera comme la pluie, ma parole. C'est la parole de qui? Oui, c'est la parole de Dieu, mais qui a inspiré cette parole? Le Saint-Esprit. Donc, à juste titre, on peut dire, et il peut dire de la parole que c'est la sienne, n'est-ce pas? Vous voyez donc, quelle est cette eau par laquelle nous devons être arrosés comme une pluie des ondées sur la verdure et comme des pluies abondantes sur l'herbe? C'est l'eau de la parole. C'est l'eau par laquelle Jésus cherche à laver son Église afin de la sanctifier. Donc ça, c'est l'étape numéro 4, qui aurait pu être l'étape numéro 3 si l'arrosage, si le désherbage était l'étape numéro 4. Maintenant, nous nous tournons vers l'étape numéro 5, à savoir celle de la récolte. C'est tout le but d'un potager et d'un jardin, c'est de pouvoir en récolter les fruits. Et nous voyons que Jésus ne s'est pas extrait à cette simple nécessité, ni dans le symbole, ni dans la réalité que le symbole symbolise, car vous lisez dans Matthieu chapitre 21 le suivant, Matthieu chapitre 21, verset 40 jusqu'au verset 43. Donc Jésus parlait ici, utilisait d'ailleurs, employait ce symbole de la vigne, il leur parlait de cette vigne dont il est question. Vous le voyez au verset 28. Je vais juste brièvement vous montrer ce dont il parle. Il disait au verset 28, « Mais que vous semble-t-il de ceci? Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il lui dit, « Mon fils va et travaille aujourd'hui dans ma vigne. » Mais il répondit, « Je ne veux point. » Cependant, s'étant repenti, ensuite il alla, puis il vint au second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « J'y vais, Seigneur, mais n'y alla pas. » Ensuite, il continue au verset 33, voilà, c'est ce que j'aurais dû lire, verset 33. « Écoutez une autre similitude, il y avait un père de famille qui planta une vigne. » Vous voyez, ça fait écho à ces passages que nous avons lus dans l'Ancien Testament au sujet de l'Éternel qui planta cette vigne, qui nettoya tout autour, qui enleva les pierres, etc., qui bâtit un pressoir. On le relit ici. « Il y avait un père de famille qui planta une vigne. Il l'environna d'une haie, il y creusa un pressoir, il y bâtit une tour, puis il la loua à des vignerons et s'en alla faire un voyage. » Donc, dans l'Ancien Testament, nous lisions au sujet de cette vigne que l'Éternel avait plantée, mais nous ne lisions pas tant au sujet des vignerons. Alors, ils étaient peut-être quelque part, mais pas directement cités, si explicitement. Et donc, Jésus, il ajoute ceci, il dit, « Puis cet homme qui avait construit, bâti, planté cette vigne et bâti ce pressoir, cet homme loua la vigne à des vignerons et s'en alla faire un voyage. » Et ensuite, il parle de ces vignerons et de la manière dont ils agirent en lien avec non seulement sa vigne, mais ce qu'il envoya dans la parabole pour en retirer le fruit, les dividendes, hein, ce qui est sorti de cette production. Et on lit, on se tourne maintenant vers le verset 40, où il est écrit le suivant. « Quand donc le maître de la vigne sera venu, que fera-t-il à ses vignerons ?» Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ses méchants, et il louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en rendront les fruits en leur saison. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ces paroles? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle, etc. » Verset 43, « C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et qu'il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » On voit bien donc que La vigne qui représente son peuple et également le royaume de Dieu, rappelez-vous, c'était une graine de moutarde qui était comparée, ou plutôt le royaume de Dieu était comparé à une graine de moutarde qu'un homme sema dans son jardin. Et cette vigne représente, dans laquelle qu'il avait confié à des vignerons, représente le royaume de Dieu. Et il dit, ici au verset 43, qu'il ôterait sa vigne à ceux qui n'en avaient pas rendu les fruits. Vous comprenez? Donc on voit bien la question de la récolte, le besoin de rendre des fruits. On le lit ici en se tournant d'ailleurs vers le passage de Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, versets 1 à 2, où il est écrit le suivant. Vous vous rappelez de ce passage connu, mais on tente ici de le relier à la méditation d'aujourd'hui. Jésus dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Il retranche tout sarment en moi qui ne porte point de fruits, et il émonde, c'est-à-dire taille, tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ensuite, il continue au verset 4 jusqu'au verset 6. « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. » On voit bien le parallèle donc entre la vigne et la question de la vigne qui porte du fruit ou qui n'en porte pas, et nous. Nous en tant que peuple et nous en tant que croyants individuels. Et maintenant, j'aimerais que nous puissions prendre un peu de temps, quoique ça m'a pris beaucoup de temps pour passer en revue toutes ces différentes étapes, à savoir, qu'est-ce que c'était? Le défrichage, l'ensemencement, l'arrosage, le désherbage, et puis, finalement, la récolte. Tout ça, ce sont les activités que nous retrouvons dans notre activité de jardinage et qui sont utilisées dans la Bible pour représenter des vérités spirituelles supérieures qui sont directement liées à notre sort et à notre vie éternelle. Maintenant, pour comprendre davantage et appliquer cela, j'aimerais que nous nous contemplions sur l'esprit de prophétie et la manière dont il éclaire davantage sur l'application de toutes ces déclarations imagées. Je me tourne avec vous vers ce passage ces conseils aux éducateurs, parents et étudiants, ou aux étudiants, parents et éducateurs, je pense que c'est dans ce sens-là, à voir. À la page 116 et au paragraphe 3, il est écrit le suivant. La parabole du semeur et de la semence nous enseigne une profonde leçon spirituelle. La graine représente les principes semés dans le cœur. Sa croissance représente la construction du caractère. Tandis que les enfants s'activeront, le parent ou l'éducateur leur parlera du jardin du cœur, semé de bonnes ou de mauvaises graines. Tout comme il faut préparer le jardin à recevoir les graines, le cœur doit être préparé à recevoir la semence de la vérité. On voit une lueur d'application de ces principes ici. Tout comme il faut préparer le jardin à recevoir les graines, le cœur, donc nos cœurs, doivent être préparés à recevoir la semence de la vérité. Et j'ajoute la citation suivante qui se trouve dans Éducation, page 124, paragraphe 2 et 3. Que les enfants eux-mêmes préparent la terre et sèment les graines. Donc ici, c'est dans le contexte donc de l'éducation, comme le titre de ce livre l'indique, et nous voulons en ressortir la leçon pour nous, bien que ce soit dirigé à l'éducation des enfants. Notez bien que les enfants eux-mêmes préparent la terre et sèment les graines. Comme nous aussi, nous sommes appelés à le faire si nous sommes concentrés sur ce besoin, non seulement de vivre à la campagne, mais d'avoir notre propre potager, nous sommes confrontés à ces leçons. Et les parents sont exhortés à confronter leurs propres enfants à ces mêmes leçons. Parce qu'elles ont eu un impact à la fois sur l'enfant et sur l'adulte. Je continue. Que les enfants eux-mêmes préparent la terre et sèment les graines. Pendant qu'ils travailleront, parents ou maîtres pourront leur parler de ce jardin qu'est le cœur, qui peut recevoir lui aussi bonne ou mauvaise graine. Ils pourront leur dire que, de même que la terre doit être préparée pour recevoir les semences matérielles, le cœur doit l'être pour la semence de vérité. Donc c'est sa réalité, en fait, c'est la même traduction qu'avant. Je continue. Lorsque la graine sera dans le sol, ils pourront parler de la mort de Christ, de sa résurrection, lorsque pointera le germe. Et lorsque la plante grandira, ils continueront à comparer semailles matérielles et semailles spirituelles. Vous voyez, donc, quand on est face au potager, nous sommes face aux semailles matérielles, et cela nous est donné comme une illustration des semailles spirituelles. C'est vrai tant pour les enfants que pour les adultes. Maintenant, nous continuons. C'est ainsi que les jeunes doivent être instruits. La culture du sol nous offre toutes sortes de leçons. Donc lorsque nous sommes confrontés à cette nécessité de garder le jardin, nous apprenons au sujet de la leçon supérieure qui consiste à garder notre cœur. D'où l'intitulé de notre méditation aujourd'hui, à savoir « Cultiver le jardin du cœur ». Nous réfléchissons d'abord aux réalités physiques, et cela dirige notre attention à travers la parole de Dieu et l'esprit de prophétie vers la culture du jardin de notre cœur. Je continue. La culture du sol, donc, nous offre toutes sortes de leçons. Personne, donc, quelles sont ces leçons? Personne ne s'attend à ce qu'un terrain en friche produise tout de suite une moisson. Il faudra un travail assidu, tenace, pour préparer le sol, semer, mener à bien la récolte. Il en est de même pour les semailles spirituelles. Le jardin du cœur doit être cultivé. Son sol doit être retourné par la repentance. Les mauvaises herbes qui étouffent le bon grain doivent être arrachées. Comme la terre autrefois envahie par les ronces ne peut être remise en valeur que par un travail diligent, les tendances mauvaises qui sont en nous ne peuvent être maîtrisées que grâce à des efforts persévérants accomplis au nom et avec la puissance de Christ. Donc, qu'est-ce que nous ressortons comme leçon du fait de devoir défricher un terrain et ensuite de tenter de nous atteler à la tâche qui consiste à tenter de faire produire à ce terrain et à cette parcelle de terre du fruit. Quelle est la leçon? Je le relis ici, ça a vraiment beaucoup de valeur pour nous. Qu'est-ce que cela recèle comme message pour nous spirituellement? Je le dis. Comme la terre autrefois envahie par les ronces ne peut être remise en valeur que par un travail diligent, c'est-à-dire un travail assidu, zélé. De même, donc, ce n'est pas marqué, mais c'est ce que cela veut dire. De même, les tendances mauvaises qui sont en nous ne peuvent être maîtrisées que grâce à des efforts persévérants accomplis toutefois au nom et avec la puissance de Christ. Donc, lorsque nous devons travailler beaucoup dans notre potager pour lui faire rendre du fruit, cela montre l'impact qu'ont les tendances mauvaises sur la productivité de la terre. Vous voyez, donc les tendances mauvaises, elles sapent. Par exemple, si vous travaillez sur un terrain qui a eu beaucoup de ronces ou qui a eu beaucoup de mauvaises herbes, ces mauvaises herbes ou ces ronces ont sapé les nutriments du sol. Et maintenant, il va falloir nourrir le sol pour qu'il puisse produire du fruit. Et ainsi de même, on n'a pas vraiment parlé de cela, mais pour que la terre qui a été épuisée puisse produire, il faut nourrir la terre. Pas uniquement par l'eau, mais du fumier. Et ça, véritablement, cela vaut le coup de le contempler dans la parole de Dieu également. Qu'est-ce que c'est le fumier? Comment est-ce qu'il est représenté? Peut-être la parole de Dieu aussi, je ne sais pas. Donc quoi qu'il en soit, nous voyons que il faut déployer des efforts persévérants afin de faire produire du fruit au cœur qui a été affaibli par les mauvaises tendances. Ce n'est pas désespéré, mais cela va requérir, ça va nécessiter beaucoup d'efforts. C'est ce que nous apprenons donc. Et je ne vais pas pouvoir faire tout ce que je voulais, tout lire ce que je voulais lire, mais je vais finir par la citation suivante qui se trouve dans Parabole de Jésus, page 41 et paragraphe 1 et 2, avec quoi je vais terminer. Voilà. Par la parabole du semeur, Christ montre que les différents résultats obtenus par les semailles dépendent de la nature du terrain. Dans chaque cas, le semeur et la semence sont les mêmes. Le Sauveur souligne de cette manière que si la parole de Dieu reste sans effet sur notre vie, c'est de notre faute. Mais les conséquences n'échappent pas à notre contrôle. Il est vrai que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Mais le libre choix nous appartient et c'est à nous de décider quelle sera notre destinée éternelle. Rien n'oblige les auditeurs représentés par la semence tombée le long du chemin, dans les endroits pierreux ou parmi les épines, à rester dans cette condition. Rien ne les oblige. L'Esprit de Dieu s'efforce sans cesse de rompre le charme qui les retient au monde et d'éveiller en eux le désir des biens impérissables. C'est parce qu'ils résistent à l'Esprit que les hommes finissent par ne plus prendre garde aux appels de la parole de Dieu et par en négliger l'étude. Ils sont eux-mêmes responsables de la dureté de leur cœur qui empêche le bon grain de s'y enraciner et des mauvaises herbes qui l'étouffent. Qu'est-ce que c'est? Je reviens en arrière. Ils sont eux-mêmes responsables de la dureté de leur cœur qui empêche le bon grain de s'y enraciner et des mauvaises herbes qui l'étouffent. Quelle est donc une autre des leçons qui ressort de tout cela? Si nous avons un cœur dur, que la parole de Dieu ne porte pas son fruit dans notre vie, cela est peut-être dû au fait que nous avons résisté à l'esprit, que nous n'avons pas pris garde aux appels de la parole de Dieu, que nous en avons négligé l'étude, et nous sommes nous-mêmes responsables de la dureté de notre cœur qui empêche le bon grain, donc la semence de la parole de Dieu, de s'y enraciner. Vous voyez donc la nécessité de passer par la première étape qui consiste à défricher, à labourer, à cultiver, à passer la herse dans la terre afin de la retourner, afin que la graine puisse y entrer. Un cœur dur empêche cela. Vous ne pouvez pas, bien entendu, semer sur une terre qui a été tassée et sur laquelle on a marché et sur laquelle on a roulé. Vous ne pouvez pas faire cela. Il faut d'abord la travailler. De même aussi, si nous voulons que la parole de Dieu soit efficace, il nous faut nous humilier, il nous faut nous repentir devant Dieu par Jésus-Christ afin de pouvoir nous atteler à cette tâche de rendre la terre fertile de nouveau. Je continue le deuxième paragraphe, par quoi je vais conclure. Il faut, et c'est donc tout l'objet de notre méditation aujourd'hui, il faut cultiver le jardin du cœur. Cultiver le jardin du cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut en défricher le terrain par une profonde repentance et en arracher les plantes nuisibles semées par Satan. Lorsqu'un champ est envahi par des ronces, ce n'est que par un travail énergique qu'on parvient à l'en débarrasser. De même, les mauvaises tendances du cœur naturel peuvent seulement être vaincus par des efforts persévérants accomplis au nom de Jésus et par sa force. Par le canal de son prophète, le Seigneur nous donne cet ordre de point, défrichez-vous un champ nouveau ou des terres nouvelles. Ah non, pardon, excuse-moi, c'est Jérémie chapitre 4, verset 3. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Jérémie chapitre 4, verset 3. Et ensuite, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Osée chapitre 10, verset 12. Jésus désire accomplir cette œuvre en notre faveur et fait appel à notre coopération. Que désire-t-il accomplir en notre faveur? Il désire semer en nos cœurs, selon la justice, sa parole, afin que nous puissions, que lui puisse moissonner, et que nous puissions moissonner selon la miséricorde. Si nous semons selon la justice, nous moissonnerons selon la miséricorde. C'est intéressant parce que vous moissonnez la parole de Dieu qui est pure, mais ensuite vous récoltez, mais selon la grâce de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas de vos propres mérites, toutefois si nous ne déployons pas d'efforts persévérants, par la grâce, par le nom et la puissance de Christ, nous ne récolterons certainement pas de bons fruits. Et donc vous voyez, frères et sœurs, à travers cette méditation, nous avons exploré tout le processus qui se révèle dans la parole de Dieu vis-à-vis du jardin que Christ cherche à cultiver. Mais il nous faut, afin qu'il puisse le cultiver, nous ne sommes pas appelés à le cultiver seul, le jardin de notre cœur. Mais nous ne pouvons pas, Jésus, ne peut pas le cultiver sans notre coopération. C'est pour ça que nous disions que Jésus désire accomplir cette œuvre. Quelle est l'œuvre? De la culture, la cultivation du jardin de notre cœur, en notre faveur, mais il fait appel à notre coopération. Donc nous avons besoin, frères et sœurs, de contempler attentivement toutes ces choses afin de voir comment elles s'appliquent à nous. J'aimerais juste lire la citation suivante, après quoi je vais terminer, où il est marqué dans Évangéliser, page 309, paragraphe 1, le suivant. « Soyez déterminés à ne pas être en désaccord entre vous-mêmes, mais à cultiver la paix de Christ dans votre cœur. » Ainsi, il vous sera facile de l'introduire dans vos propres familles. Mais quand le jardin du cœur est laissé à l'abandon, les plantes vénéneuses de l'orgueil, de la vanité, de la suffisance deviennent envahissantes. C'est pourquoi nous devons, chacun pour nous-mêmes, veiller et prier. Chacun pour nous-mêmes, nous devons veiller et prier, veiller afin de garder notre cœur. Garder notre cœur, ensuite il dit « donne-moi ton cœur ». Garder notre cœur, parce que c'est de lui que viennent toutes les sources de la vie, et nous en voyons bien entendu davantage le sens maintenant à travers cette méditation. Puissions-nous, frères et sœurs, nous offrir à Jésus notre coopération dans cette tâche, et ne plus, si tant est que nous l'ayons fait, ne plus laisser le jardin de notre cœur à l'abandon, aux plantes vénéneuses de l'orgueil, de la vanité, de la suffisance. L'orgueil, la vanité, la suffisance, ces plantes croissent lorsque nous avons abandonné le désherbage, à laisser les plantes de l'amertume croître et infecter tout notre cœur comme une plante vénéneuse plantée par Satan. Puisse le Seigneur vraiment nous encourager, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, tirons du courage et de l'inspiration de cette méditation, afin que nous sachions véritablement, nous le savons maintenant, afin que nous mettions en pratique, que nous coopérions avec Christ lorsqu'il désire que nous veillions et que nous prions sur la qualité de notre cœur. Vous savez, dans un potager, cela prend du temps pour que les mauvaises herbes pousse, et encore cela dépend de sa fertilité. Plus il est fertile, plus les mauvaises herbes poussent vite. Quoi qu'il en soit, vous avez le temps. Mais dans toute l'affaire de notre cœur, en un instant, vous pouvez semer des mauvaises semences qui vont vous prendre des années pour arracher. Je travaille en agriculture, donc je connais plus ou moins le sujet. Et il y a des semences, si vous ne les prenez pas à temps, elles vont produire tellement de graines que ces graines-là seront dans votre champ pendant des décennies. Donc puissions-nous, frères et sœurs, prendre cette chose à cœur. Si nous avons laissé notre jardin à l'abandon, puissions-nous prendre notre courage entre nos deux mains et vraiment repartir dedans. Ne plus laisser le jardin à l'abandon. Ne plus laisser le jardin à l'abandon. Être en paix entre nous-mêmes, entre frères et sœurs. Lorsque nous avons la haine, l'amertume, les différends, la discorde, en réalité, c'est parce que nos jardins ont été abandonnés. Il y a trop de suffisance, trop d'orgueil. Le cœur a besoin d'être brisé. Nous avons besoin de traverser toutes ces étapes. La repentance, l'humiliation. Nous avons besoin de semer la parole de Dieu, d'aller là où ce que la parole de Dieu va être semée dans nos cœurs. Ne pas nous isoler de telle sorte que nous ne recevrons plus rien. Parce que s'il n'y a pas la parole de Dieu qui est semée dans nos cœurs, il n'y aura que les mauvaises herbes qui vont pousser. C'est ce que nous voyons dans la réalité du potager. Et entre parenthèses, j'aimerais ajouter que c'est possible que nous avions dans la vie un potager merveilleux. Il est très bien entretenu, mais notre cœur n'est pas entretenu. Donc, ne tombez pas dans ce piège de penser que parce que votre potager physique est bien entretenu, votre cœur l'est aussi, parce que ce n'est pas forcément le cas. À moins que nous apprenions les leçons. Si nous apprenons les leçons, nous les pratiquerons tant dans notre potager que dans notre cœur, et nous cultiverons le jardin du cœur afin que Jésus puisse finalement entrer dans son jardin et récolter les fruits et nous dire, bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Je veux que mon jardin fasse partie de mon plus grand jardin, l'Éden. Hein? Jésus va prendre tous les jardins de notre cœur, il va les combiner. Ça sera l'Éden restauré. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et puisse le Seigneur bénir sa parole dans nos cœurs. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.